Couleur tropicale.
Couleur tropicale, c'est chaud.
Ça café. Bon, tout pour couleur tropicale.
Couleur tropicale.
Ça va être incroyable.
Ouais. C'est l'émission. C'est la maison.
Ouais, voilà.
Couleur.
Couleur tropicale. Oh yeah. Allez, les yo.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Je vous aime.
Couleur tropicale avec Laetitia.
Bonne arrivée la famille, Mathieu, Boris, Annabelle, Ismo et tous les techniciens d'Institut français d'Abidjan nous reçoivent pour ce dernier jour au cœur du FEMUA. Nous allons aborder une question cruciale pour le continent berceau de l'humanité et donc de la civilisation. Cette question est la jeunesse, cette jeunesse si peu considérée et cela depuis si longtemps. En tout cas, c'est comme cela qu'elle le vit et c'est la perception également de bon nombre d'observateurs. La jeunesse peut-elle prendre le pouvoir en Afrique? Et c'est vous qui allez répondre.
Génération consciente, génération causante. Une génération consciente, c'est une génération causante.
La jeunesse peut-elle prendre le pouvoir en Afrique?
Mon nom est Noble MC, alias Maolé, Herman Kevin. Il y a beaucoup de corruption, il faut déjà combattre la corruption, puisque c'est la corruption qui est la mère de tout ce bordel en Afrique. En effet, il y a un jeune qui avait un talent, qui avait créé un ordinateur ou un certain système et qui est mort à l'hôpital sans aide. Malgré qu'il est passé à la télé, malgré que les gouvernants ont vu ses appels, ça va dans le sens de la bonne foi des gouvernants et la bonne foi des personnalités politiques. Parce que tous les vieux, ils ferment les portes aux jeunes. Donc il faut que ces vieilles personnes aient une bonne conscience pour ouvrir la porte aux jeunes.
Bonsoir tout le monde. Merci à RFI qui nous donne l'occasion de nous présenter et de nous exprimer sur cette grande chaîne radio. Parce qu'ici, dans notre pays, s'exprimer sur... une radio, c'est un luxe, Claudie. Donc, merci. Voilà. Et merci à toi pour toutes, les idées que tu émets sur cette célèbre plateforme de Le Tropical en faveur des jeunes. Merci.
Merci beaucoup. Merci à toi. Oui. Merci.
Donc, à la question de savoir si la jeunesse peut prendre le pouvoir en Afrique, moi, je dirais que la jeunesse doit prendre le pouvoir en Afrique parce que nos dirigeants ne vont jamais nous laisser prendre le pouvoir en Afrique. Ce qui s'est passé en France avec le président Emmanuel Macron, moi, ça a soulevé des consciences ici, parce que nous avons vu qu'en Afrique, c'est un mirage, c'est une utopie de voir un jeune aujourd'hui au pouvoir. Les présidents qui sont là, c'est des gens qui ont fait des décennies au pouvoir, et la jeunesse n'est pas au centre de leurs activités. Ils ne font que nous manipuler, voilà, à travers, je dirais, des actions qui sont intéressées par, je dirais, leur propre opinion, voilà, ils ne s'inspirent pas de la problématique de la jeunesse, le dit. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la jeunesse est désœuvrée. On est désœuvrée parce qu'on n'a pas le choix. On s'adonne aujourd'hui à l'immigration clandestine et tout. Aujourd'hui, on part en Europe parce qu'on a faim, parce qu'on n'a pas d'alternative. Nos dirigeants africains n'ont pas de vision, en fait. Voilà, ils ne nous donnent pas la possibilité aujourd'hui de nous former, de rester ici dans notre continent qui est plein de richesses. Il ne nous donne aucune alternative pour que nous puissions être cette jeunesse consciente pour prendre le pouvoir. Alors c'est à la jeunesse elle-même de se responsabiliser. Parce que c'est en étant conscient, en étant responsable, que nous allons prendre cette jeunesse-là. Et peu importe le temps que ça va mettre, la jeunesse en Afrique prendra le pouvoir tôt ou tard. Merci.
Bonsoir. Je suis Yao Kadio Herman, Ange, président de la Jeunesse Unie d'Abobo.
Oui.
Effectivement, la jeunesse peut prendre le pouvoir en Afrique. Le problème est que d'abord, il faut déjà que la jeunesse elle-même soit consciente et prenne ses responsabilités. Je vais d'abord sur le phénomène du bruitage, comme on le dit. Aujourd'hui, la jeunesse s'est adonnée aussi à la facilité. Personne ne veut travailler. On veut tous avoir de l'argent sans travailler. Quand vous prenez le phénomène du bruitage, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, vous pensez que avec la technologie qu'a les Blancs, le pouvoir qu'ils ont, les services secrets qu'ils ont, s'ils décident de mettre fin à sa science tenante, ils ne peuvent pas. Mais pourquoi ils vous laissent faire? C'est parce qu'ils savent qu'en vous donnant à la facilité, personne ne veut travailler, personne ne veut aller à l'école. Quand vous prenez le niveau scolaire aujourd'hui, est à moins. Moi, je trouve que c'est à moins. Les enfants ne fournissent plus d'efforts. Si on y prend garde, d'ici 10 ans, nous chercherons des hommes de métier. Parce que plus personne ne va apprendre des métiers. Il faut déjà que la jeunesse s'élève et accepte de travailler. Bon, le marché du travail est difficile, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est partout dans le monde. Partout où vous passez, quand on regarde l'actualité, même en Europe, il y a des chômeurs. Aux États-Unis, il y a des chômeurs. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, en tant que jeunes, on veut fournir des efforts? Ça aussi, c'est une question. Quand vous prenez le politique en Afrique, comme vous le dites, ils n'accepteront jamais de nous laisser prendre le pouvoir. Ils voudront que ce soit les enfants qui nous dirigent comme ils ont dirigé nos pères. Mais qu'est-ce que nous-mêmes on fait pour arriver à cela? Les Ivoiriens sont les cousins des Camerounais et des Congolais. Nous aimons bien nous habiller, toujours en train de nous amuser. Il faut déjà même qu'on se dise qu'en tant qu'enfant de pauvre, je n'ai pas assez de moyens, il y a des choses auxquelles je ne dois pas m'adonner. C'est en cela qu'on peut arriver à prendre le pouvoir. Sinon, si on attend que ces politiques nous donnent, c'est que nous n'apprendrons jamais le pouvoir. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Je suis Don Hébert, Don comme Don de Dieu, tchadien de nationalité, écrivain, essayiste également. Moi, je crois que la jeunesse n'a pas à pouvoir prendre le pouvoir. En tout cas, dans le contexte actuel, elle a plutôt à devoir prendre le pouvoir en Afrique. Et pas seulement cela, c'est... Est-ce qu'elle veut également prendre le pouvoir? Est-ce qu'on est prêt du point de vue capacité? La deuxième approche conceptuelle également, c'est de quelle Afrique parlons-nous? L'Afrique est à la fois multiple et unique. Si j'étais un Botswanais, à cette question-là, je n'aurais pas la même réponse qu'un Tchadien que je suis. Si j'étais un Ghanéen, un jeune Ghanéen, je n'aurais pas la même réponse face à cette question-là. Donc, de quelle Afrique parlons-nous? Ça, c'est très crucial. Il s'est tenu en Djamena à un forum très récemment qui se voulait inclusif. Et à la sortie de ce forum-là, des résolutions ont été prises dans le sens d'un passage de la Troisième République à une Quatrième République. Et la jeunesse a été complètement exclue des résolutions de ce forum-là. Dans la Quatrième République, il est prévu la suppression du poste de Premier ministre. Il est prévu la suppression du Conseil constitutionnel. Et l'âge de la présidentialisation passe désormais à 45 ans au Tchad. Où est la place de la jeunesse? Voilà, merci.
Merci beaucoup. Vous avez évoqué quelque chose de très juste, l'éducation. Et c'est vrai que prendre le pouvoir pour la jeunesse, c'est avoir un niveau de conscience de sa condition, de celle des autres également, et par cette prise de conscience individuelle, être capable de créer une prise de conscience collective. Parce qu'un individu qui est désorienté dans sa société, si son semblable est tout aussi désorienté que lui, il lui est impossible de créer un mouvement collectif qui ne soit pas lui aussi composé de gens désorientés, donc désorientés ou incapables de prendre la bonne décision. Donc oui, c'est vrai, c'est important, et ça passe souvent parce qu'il y a dans nos têtes, dans notre raisonnement, là, lorsque nous nous parlons, lorsque nous nous interrogeons sur ce que nous vivons ou sur ce que vivent nos semblables. Et cette capacité-là, elle vient aussi, alors avec un degré de conscience, certes, quelque chose d'instinctif, mais il y a l'instinct et l'inné. Et donc ça passe par l'éducation, très clairement.
Génération consciente d'Afrique. Nous sommes les enfants des Rastafari. Nos ancêtres, Haïlé Selassie, Kwame Nkrumah, Sékou Touré. Ils ont lutté pour l'unité. Ça n'a pas marché quand nous n'étions pas.
Bonsoir le public. Je suis M. Moumouni Gado, Dimoucho. Je suis un non-voyant. Je suis à l'Institut des aveugles de Yopougon. Le problème, je pense que c'est sur le plan de l'éducation et de la formation. Parce que pour que nous puissions prendre le pouvoir en Afrique, il faut le soutien de nos parents. Parce que, M. Claudia, je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, ici, les parents dépensent sur la jeunesse pour l'éducation et la formation. Et vous êtes à l'université à l'âge de 40 ans, vous êtes diplômé que vous n'avez pas de boulot. Et c'est à quel moment vous allez commencer à travailler en Afrique? Il faut des réformes dans l'administration et à la fonction publique. Il faut que nos parents nous aident à marcher, à nous manifester. Et quand le président Macron disait au Burkina, prenez votre responsabilité, revendiquez vos droits, c'est à vous de décider. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'en Afrique, ici, il y a les chefs d'État qui sont là, les ministres qui ont plus de 60 ans, 70 ans, ils sont ministres. Ils sont des milliardaires et des millionnaires. Moi qui ne vois pas, je suis allé jusqu'en Libye, j'étais prêt à aller en Europe, j'ai traversé le désert. Mais la Libye, j'ai trouvé que même les chômeurs sont payés. Comment Kadhafi a pu faire pour organiser son pays? Et que l'Afrique noire, les chefs d'État qui sont là, qui ne peuvent pas organiser au moins la jeunesse pour leur donner la possibilité de travailler. Un papa qui peut dépenser 800 000 ou bien 2 millions, 3 millions pour que son enfant puisse travailler. Après avoir obtenu les diplômes, il est gérant des cabines. Mais ce n'est pas possible. Ceux qui sont diplômés, si on les faisait travailler pendant 15 ans, on leur donnait une garantie. Vous avez une maison, vous avez un salaire de 200 à 300 000 francs par mois. Pendant 15 ans, vous pouvez vous retrouver au moins avec 36 millions ou 40 millions. Mais qu'est-ce que vous allez partir chercher en Europe? Pendant qu'il y a des ministres qui détournent des milliards. Et quand on fait le calcul, avec un milliard, vous pouvez vivre pendant 50 ans. Chaque jour, dépenser 50 000. Pendant 50 ans, vous allez dépenser 912 millions 500 000. 500 millions. Il va vous rester 87 millions 500 000 sur les 1 milliard. Il y a combien de ministres qui ont des milliards en Afrique ici? Merci beaucoup, Claudia.
Merci beaucoup. Merci. À deux reprises, vous avez évoqué le nom du président de la République française, Emmanuel Macron. Et en des termes plutôt positifs, en disant que justement, ça nous inspire, ça nous donne envie, nous aussi, de dire à la fois, il y a un président jeune en France, donc ça veut dire que c'est possible. Et puis, les paroles prononcées à Ouaga sont des paroles intéressantes qui nous stimulent. Vous avez peut-être suivi cet épisode sur les réseaux sociaux où j'ai accepté l'invitation du président Macron pour me rendre au Sénégal lors du c'était un sommet sur l'éducation organisé par la Banque mondiale sous le parrainage de la République du Sénégal et de la République française. Et certains qui se disent très panafricanistes ont estimé que j'étais un traître parce que j'avais osé accepter une telle invitation, sans savoir d'ailleurs pourquoi j'ai accepté cette invitation et ce que j'allais y faire. Et j'ai répondu à certains, parce que moi je suis très respectueux, donc même lorsque je suis attaqué, j'essaie de répondre pour que les uns et les autres comprennent. Mandela disait, ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs. Lorsque vous avez des instances internationales et des États qui décident de se réunir pour parler d'éducation en Afrique, et qu'on a déjà d'ailleurs identifié vos projets sur l'éducation, et qu'on vous demande de venir, et que vous n'avez pas la langue dans votre poche, parce que vous pouvez dire ça oui, ça non, ça oui, ça non, là vous faites n'importe quoi, que vous êtes capable de dire aux uns et aux autres, mais vous n'allez pas décider d'une politique éducative en Afrique sans les Africains. Et sans que ce soit eux qui décident des politiques éducatives dans leurs pays respectifs. Si, effectivement, les moyens financiers manquent, vous pouvez apporter des moyens financiers. Mais ces moyens financiers-là, vous devez les donner aux femmes et aux hommes qui vont être capables de mettre en place ces politiques-là. Il est important et urgent aujourd'hui de mettre plus d'argent dans l'éducation que dans l'armement, que dans la recherche de je ne sais quelle autre fumisterie, c'est l'éducation et la santé. Et le troisième volet, c'est la culture, parce que la culture, c'est l'identité. Et l'identité, c'est l'estime de soi. C'est la capacité que l'on donne à des jeunes de se construire autrement, de ne pas ressembler à leurs parents, parce que la véritable richesse d'un pays Ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le cacao, ce n'est pas le café, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas l'or, l'uranium, tout ce que vous voudrez. C'est l'intelligence des êtres humains. C'est leur capacité. Leur capacité à réfléchir, à créer, à imaginer, à rêver.
Merci beaucoup, Monsieur Claudicia. Merci à toute la famille Couleur Tropicale. C'est Mademoiselle Dosso Fatim Raissa, de nationalité ivoirienne. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont prêts à mourir pour des vieillards, juste pour des miettes. Quand vous arrivez dans ma région, mais elle est carrément divisée.
Quelle est cette région?
La région du Bafing. Les politiciens se servent de la jeunesse. Cette jeunesse se dit intellectuelle. Mais monsieur, quand vous arrivez là-bas, c'est du grand n'importe quoi. Les jeunesses, il y a des clans, des personnes de même père, de même mère, qui sont prêts à se tuer juste à cause de quelques personnes qui viennent se foutre d'eux, qui leur donnent des miettes. Quand on parle de la jeunesse, en fait, c'est une partie, je dirais 10% de la jeunesse. Parce qu'il y a les 90% de la jeunesse qui soutiennent les vieillards. Quand on dit qu'il y a une génération consciente, c'est seulement que 10% qui sont une génération consciente. Sinon, franchement, monsieur, la jeunesse ivoirienne, particulièrement, est...
Elle est quoi, endormie?
J'ai pas vraiment le mot, mais vraiment, la jeunesse ivoirienne est à revoir, surtout la jeunesse ivoirienne, parce que c'est pas possible de suivre des personnes qui n'ont pas d'idéologie. J'ai dit, ici en Afrique, il n'y a pas un président, du moins, que je connaisse, qui a une vision claire. Ce sont des personnes qui vendent des illusions, des personnes qui n'ont jamais de projet concret. Mais nous sommes toujours prêts à les suivre. Souvent, il s'agit seulement de telle et telle ethnie, des excuses stupides. Donc du coup, je vote telle religion, on ne sait pas quelle idéologie. Je prends le cas en France, il y a le parti de gauche, là, le parti de droite. Quand il y a une idéologie qui ne me sied pas, je ne vote pas. Mais ici, ce n'est pas ça. Si je suis Doula, je vote tel parti. Si je suis Bété, je vote tel parti. Vous voyez,
ce n'est pas en train de changer, ça?
Ce n'est pas en train de changer. Moi, d'accord, j'en sais quelque chose. Ça n'est pas prêt de changer, monsieur. Il y a des revendications par-ci, des revendications par-là.
Est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire, a suffisamment de considération pour sa jeunesse?
La République de Côte d'Ivoire n'a pas de considération pour sa jeunesse, non.
Bon. Moi, c'est Ndjegelmba Ndikngar. Je suis de nationalité italienne. J'ai une expertise en droit public, notamment, n'est-ce pas, sur la question de démocratie et constitutionnalisme en Afrique. Nous avons eu des présidents qui ont pris le pouvoir en Afrique très jeunes. Idriss Déby Itno, le président tchadien actuel, a pris le pouvoir avant 40 ans. Mais ce jeune qui est devenu vieux refuse de laisser le pouvoir aux jeunes. Alors, la chance que vous avez eue, n'est-ce pas, d'avoir le pouvoir très jeune, laissez cette même chance à ceux qui viennent après vous. Et un autre aspect, moi, ma jeunesse, celle du Tchad, je veux dire, excusez-moi de la référence, est étouffée parce que c'est le seul pays dans lequel, où pour avoir une connexion de 100 mégabits, il faut payer au moins 2000 francs CFA. Incroyable. Ça n'existe pas quelque part au monde. C'est le seul pays au monde où, quand on veut faire des manifestations, on coupe les réseaux sociaux. Depuis presque 2 semaines, il n'y a pas WhatsApp au Tchad, il n'y a pas Messenger au Tchad, il n'y a pas Facebook au Tchad. Mais on vit dans quel monde? Et ça, c'est au vu, au su, n'est-ce pas, des puissances qui prônent la bonne gouvernance. Et très malheureusement, ces dernières, je veux dire, observent impuissamment et la jeunesse est en train de mourir à petit feu. Nous avons des jeunes qui ont du talent. Nous avons des jeunes qui ont des visions. Et que ces jeunes-là sont étouffés, sont arrêtés, sont torturés, relâchés, et il n'y a pas de poursuite. Mais la question de l'éducation me tient un peu à cœur aussi, parce que, en tant que jeune, nous sommes devenus trop paresseux. Je ne sais pas si c'est à cause des nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies qui doivent nous servir, n'est-ce pas, d'atout pour, n'est-ce pas, renforcer nos capacités, et tendent d'une manière à une autre, n'est-ce pas, à détruire ce que nous avons de mieux en nous. Et cela fait que cette jeunesse s'endort, alors qu'il y a des questions cruciales sur lesquelles il faut, n'est-ce pas, agir. La jeunesse ne s'intéresse pratiquement pas à la politique. On se dit que la politique, laissez ça aux politiciens. Et pourtant, la politique, si on ne la fait pas, elle nous fait.
Vous savez, lorsque vous éprouvez un peuple trop longtemps, il y a des choses auxquelles il ne réfléchit plus. Il est dans une situation de survie.
Absolument.
Mais si on va trop loin, il peut après se révolter et renverser le pouvoir.
Absolument, je suis d'accord. C'est la politique et c'est le système. J'aime bien citer le père Ofé Boigny qui disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre.
C'est clair.
Alors là, quand on affame le peuple chaque jour, absolument, on n'arrive pas à penser. Tout ce qu'on a à faire, c'est peut-être chercher à manger. C'est incroyable de croire aujourd'hui que N'Djamena est l'une des capitales les plus chères aussi, pendant que les fonctionnaires n'ont pas d'argent, pendant que le fils, sinon un proche du président, se retrouve au Canada avec plus de 8 milliards de dollars investis dans l'immobilier. Imaginez pendant que le peuple est en train de souffrir.
C'est 8 milliards, je ne sais pas si c'est le chiffre, mais en tout cas, ce sont des sommes très importantes.
Pendant que la jeunesse est en train de mourir, sinon la population est en train de mourir. Donc, cette jeunesse qui est étouffée, comment voulez-vous que cette jeunesse puisse prendre le pouvoir?
Oui, merci.
Bonsoir la famille RFI.
Bonsoir la famille.
Mon nom, moi, c'est Sungi Emma, étudiant en licence 2 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le temps n'est plus à remettre la faute sur une autre personne. Il faut passer ce stade. C'est vrai, les chefs d'État, c'est vrai que les responsables, les dirigeants ne font pas aussi l'effort pour pouvoir relever ou même pour pouvoir rehausser le niveau de la jeunesse. Mais nous aussi, en tant que jeunes, nous devons aussi prendre conscience, nous remettre en cause. Parce que nous sommes passés brusquement de l'État archaïque à l'État moderne. Prenons le temps ancien, par exemple en Europe. Ça a été un État progressif. Ça s'est passé de façon progressive. Il y a eu le siècle des Lumières, le siècle où tout a été remis en cause. Mais concernant en Afrique...
C'était également un siècle où l'esclavage colonial terrible envers les Africains déportés était également là. Donc il y avait à la fois des choses extraordinaires en termes de pensée, en termes pour l'humanité... Et des choses les plus archaïques et les plus barbares. Je suis le fruit d'un de ces crimes contre l'humanité, de ces Africains déportés il y a plusieurs siècles. Donc voilà.
Effectivement. Pour continuer, il faut que les Africains prennent une conscience. Il ne s'agit pas de dire non. Bon, comme aujourd'hui je ne travaille pas, c'est forcément la faute du DG. Non. Mais c'est forcément la faute du chef de l'État. Il faut toujours continuer à persévérer. On se dit, non, bon, il a pris le pouvoir, c'est fini, donc on laisse tomber. C'est le cas aussi, pour ne pas faire de la politique, c'est le cas aussi des panafricanismes. Mmh. On est toujours en train de remettre la faute sur l'Occident, sur les Européens.
Merci.
Il faut aussi se mettre aussi au pas. Si quelque chose se passe en Afrique, c'est nous qui devons prendre la décision de l'arrêter. Ne pas toujours attendre que ça vienne de l'Occident.
Sur les manifestations estudiantines qui ont été durement réprimées, qu'avez-vous à dire?
Bon, concernant les manifestations estudiantines, ça, c'est pas maintenant qu'elles sont toujours réprimées. Depuis la date de création du FESI et puis aussi de l'université, les manifestations ont toujours été réprimées.
Et le président de l'Assemblée nationale en sait quelque chose.
Les manifestations ont toujours été réprimées. Donc, c'est pas la première fois. Concernant cela, je peux dire, bon, c'est comme une question d'habitude maintenant. Ils sont habitués, ils savent que lorsqu'ils vont manifester, ils seront réprimés. Ça, ils le savent. Mais ils le font quand même. Mais sauf que c'est la manière dont les policiers, les autorités agissent qui est trop brutale. Il y a eu aussi un temps, il y a un étudiant qui est mort l'année passée.
Ouais.
Mais ça, ce sont des choses qui doivent prendre fin.
Bon.
Pour passer à un état moderne, pour se dire, OK, on est émergent, on avance, il faut arrêter ce genre de choses.
Toujours dans cet ordre d'idée, la jeunesse peut-elle prendre le pouvoir en Afrique? Avez-vous confiance dans les instances nationales ou continentales? Qui souhaite répondre?
Moi, c'est Eric Yeo. On ne peut jamais avoir confiance et on ne doit jamais avoir confiance en ces institutions-là.
Pourquoi?
Pour la simple et unique raison que c'est ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui instaurent les lois, qui décident de qui doit être ici, qui doit mener telle politique ici, qui doit faire ceci et cela. Mais tu places ta confiance en quelqu'un qui te dirige, quelqu'un qui veut que tu sois sa marionnette. Mais là, c'est comme si tu fonces droit dans le mur, quoi. On doit se battre, prendre conscience que ceux-là ne seront jamais prêts pour nous, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, ne seront jamais prêts pour nous. Et chercher d'autres stratégies pour pouvoir les affronter, ou même d'autres stratégies pour pouvoir même contourner. Parce que lorsqu'on essaie de les affronter, les répressions sont désastreuses.
Mais c'est incroyable de se dire que des instances qui sont censées représenter les populations, censées améliorer le quotidien des populations, eh bien, sont perçues comme étant des adversaires, parce que c'est ce que tu dis.
Oui, bien sûr. L'ONU, l'Union africaine, c'est à partir... La France, les États-Unis qui dirigent l'Union africaine.
Qui finance en grande partie.
Et puis même l'argent qui ne finance pas, l'argent qui prennent ici, qui viennent refinancer ici encore. Vous voyez, c'est truc. Donc il faut se détourner de tout ça là pour pouvoir avancer.
Merci. On peut l'applaudir.
Bonjour la famille, bonjour Claudie.
Bonjour.
En fait, moi je voulais poser une question. Est-ce que nos dirigeants dirigent avec confiance? J'ai l'impression qu'ils ont tous peur.
C'est pas faux.
Ils arrivent. Joe, on est arrivé, prenons pour nous, on va gagner en temps. avant que ça ne se gâte. C'est dans cette conscience qu'ils vivent, quoi. Raison pour laquelle nous sommes tous délaissés, je vous assure.
On ne sait pas pourquoi ils ont peur. Hein.
Oui, on ne sait pas.
Bon, en tout cas, ils ne nous le disent. Nous, on suppose, mais ils ne le disent pas.
Ils prennent des millions, ils vont. Pourtant, ces millions, ils peuvent prendre pour investir pour nous qui sommes là.
Ouais.
Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se disent que nous aussi, on fait que ça se gâte, on va tout perdre. Donc, il vaut mieux se remplir les poches et attendre que tout se gâte.
C'est vrai que c'est quand même assez étonnant de constater que dans quasiment tous les pays d'Afrique francophone et dans certains pays d'Afrique anglophone, eh bien, il y a un manque d'universités. Au Congo, par exemple, Congo-Brazzaville, il n'y a qu'une université pour ce pays. Une seule. C'est terrible. Les jeunes sont parfois obligés d'arriver à 3 ou 4 heures du matin pour espérer avoir une place pour des cours qui commencent à 8 heures. C'est du délire. Comment expliquer qu'il n'y ait pas suffisamment d'universités, pas suffisamment d'écoles, pas suffisamment d'hôpitaux, ou en tout cas, lorsqu'il y a des hôpitaux, ils sont dans un tel état que même les dirigeants eux-mêmes ne se font même pas soigner dans le pays. C'est-à-dire qu'on devrait normalement, constitutionnellement, obliger des responsables politiques à se soigner dans leur pays. Je peux vous assurer qu'en 6 mois, il y a des hôpitaux flambant neufs avec les plus grands spécialistes du monde. Alors là...
Moi, c'est Alasco, Verout, artiste chanteur reggae. Bon,
avec un titre qu'on a diffusé dans Couleur Tropicale.
Effectivement, Jeunesse africaine.
Jeunesse africaine.
Effectivement. Ouais. Bon, depuis l'indépendance, la décolonisation, il y a eu l'éveil de conscience. Mais l'éveil de conscience n'a pas été suivi. Parce que dès que les gens viennent aux commandes, ils se remplissent les poches. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut ? Le taux d'intellectuel en Afrique est en train de monter. Il y a les matières premières en Afrique. Il faut que la jeunesse africaine commence à organiser une solidarité de coopératifs. Parce que quand on va au référendum, c'est nous qui votons. Hein. Quand vous voyez les affrontements dans les rues, c'est les jeunes, c'est pas les vieux, c'est pas les dirigeants non plus. Donc les facteurs endogènes, il faut d'abord une union au niveau de la jeunesse africaine, une intégrité. Est-ce que ce que je fais, c'est bon ? Si on commence à comprendre cet état de fait, vous verrez qu'on va cultiver nos terres, on va se contenter des matières premières qu'on a, et l'apanage des blancs tels que la technologie nous sera utile. Il y aura un respect. On est trop faible moralement, l'intégrité. Oui.
C'est vrai. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Alasco. La racine de l'Afrique, avec ce titre qu'on aime vraiment beaucoup, cette EP, et le titre Jeunesse africaine qu'on a diffusé dans Couleur Tropicale et qu'on diffusera encore. Je voudrais justement, enchaînement facile, merci beaucoup Alasco, je voudrais qu'on reçoive quelqu'un qui va venir là sur la scène de l'Institut français. On a découvert son titre qui nous a beaucoup émus. Il nous a beaucoup émus par le texte, il nous a beaucoup émus également par l'interprétation, avec un jeu qui va au-delà du jeu du rappeur ou du slammer ou du chanteur. C'est vraiment quelqu'un qui incarne ce qu'il fait. On voulait qu'il vienne avec nous sur la scène, pour vous, dans cette séquence de la Génération Consciente. On va parler avec lui tout à l'heure. Je vous demande d'accueillir Ralph Bozart, s'il vous plaît. Applaudissez-le.
Maman, si tu lis cette lettre, c'est que je suis parti. Loin de toi, loin du plaid, loin du pays. Je vais tenter ma chance au continent de l'homme blanc. Je ne pouvais te dire ce que je mijotais comme plan. Tu sais qu'ici la vie devient de plus en plus difficile. J'en ai marre d'être à ta charge, de te créer des déficits. Je veux voler de mes propres ailes, devenir en aide, et pour ça je remuerai terre et ciel. Je t'en ai pas parlé, je sais que t'allais me dissuader, mais ce n'est pas facile pour toi depuis que papa est décédé. Je suis l'homme de la maison, je sais, je devais prendre une décision conflictuelle. Mon cœur et ma raison, et j'ai choisi de partir m'envoler, faire de nouveaux horizons, revenir te construire une grande maison. Non, femme, ne pleure pas, ton fils est sauf, plein le prochain jour te reviendra. J'irai tenter ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Réaliser le rêve africain et revenir au bled, les poches pleines. J'irai tenter ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Réaliser le rêve africain et revenir au bled, les poches pleines. Chérie, si je t'écris ce mail, c'est pour te dire que depuis quelques jours, je me trouve sur le sol de la Libye. Je ne veux pas échouer dans la vie, je n'aurai aucun alibi. Donc je m'en irai pour la France en passant par l'Italie. Je ferai fortune et je reviendrai te chercher, toi et le bébé, pour vous conduire dans ce havre de paix. Je vous ferai voir la tour Eiffel, visiter les Champs-Élysées, marcher dans la neige, je vous sortirai du ghetto. Je nous construirai un château, j'augmenterai notre part du gâteau à mon retour de l'Eldorado.
Crois-moi, tout se passera bien. Je sais que tu me soutiens. Je ne te trahirai jamais. J'affronterai vents et marées. Je lutterai contre les vagues. Je m'accrocherai à la barque, à les UV. On doit prendre le large, direction Lampedusa. La terre promise, notre avenir, la terre d'espoir. J'irai tenter ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Réaliser le rêve africain et revenir aux plaids, les poches pleines. J'irai tenter ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Réaliser le rêve africain et revenir aux plaids, les poches pleines. Nous voici à bord de notre embarcation de fortune, entassés les uns sur les autres comme dans un négrier. Mais cette fois-ci, le colon, pour rien n'y est. Nous sommes nos propres, nous nous mettons nos propres chaînes. Il est trop tard pour faire machine arrière. On visualise notre arrivée, on ne regarde plus derrière. Il fait froid, il fait noir, et c'est seulement à ce moment-là que je réalise mon action suicidaire. Une vague violente de la bague se renverse. Pour couler notre Titanic au pagodi, pas besoin d'un iceberg. Je ne verrai pas la terre promise comme Moïse, car je me noie au milieu de l'océan. Lampedusa, je ne te verrai jamais. Je perds connaissance, c'est le flou puis le néant. Lampedusa, je ne te verrai jamais, car je coule au milieu de l'océan, c'est le flou puis le néant. Ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Adieu à toi mon rêve africain, plus jamais je ne reverrai mon bled. Je voulais tenter ma chance là-bas, comme dans cette chanson de Jean-Jacques Goldman. Adieu à toi mon rêve africain, plus jamais je ne reverrai mon bled. De 2000 jusqu'à 2018, plus de 20 000 personnes ont laissé leur corps, leur âme dans la Méditerranée. 2016-2017, près de 3500 personnes sont décédées. Afrique, réveille-toi, deviens consciente. L'Eldorado, c'est ici. Vive l'Africain nouveau. Vive l'Afrique nouveau. Vive le récit.
Ralph Bozart.
Alors, je vais présenter celle au singulier qui t'accompagne, Claudia, donc, c'est elle. Et puis
Ray et Maxi Clavier,
ouais,
qui est aussi mon arrangeur, avec qui j'ai travaillé sur
l'album. Applaudissez-les tous les trois, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ralph, je disais tout à l'heure, effectivement, rappeur, certes, mais tu n'es pas que ça, car tu es également un homme de cinéma, de caméra, d'image. Je voudrais que tu nous parles de toi.
Au fait, je travaille beaucoup dans l'audiovisuel et quand j'écris, je veux transmettre des émotions. Je veux que la personne qui écoute le morceau puisse se faire en image lui-même ce qui est représenté à l'intérieur des lyriques. Et c'est comme ça que je suis parti sur ce morceau de Lampedusa.
Mais c'est comme ça qu'on l'a vécu nous aussi. Je peux t'assurer, ça a été un moment d'émotion la première fois que dans le bureau de Couleurs Tropicales, nous avons écouté ce titre-là. Parce que dans la tragédie de la traversée, lorsque tu exprimes également celui qui perce sa vie, là, maintenant, et tu dis, bah, maman, je suis désolé, mais je ne réaliserai pas ce rêve-là, je suis en train de mourir. Comment et pourquoi cette chanson, Lampedusa ?
Parce que j'ai une amie qui a tenté cette traversée et elle est décédée dans la Méditerranée. Mmh. Je ne le savais pas, c'est mon associé, on était en plein en train de faire l'album. Et sur l'album, il y avait le premier single qu'on lançait qui s'appelle « Le dernier taxi », qui était aussi un hommage à un mannequin avec qui on travaillait qui s'est fait assassiner par un chauffeur de taxi. Et pendant que j'étais en train de finir l'album, il me dit « Tu ne vas pas imaginer, on vient encore de perdre quelqu'un. » Et dans la Méditerranée, je dis « Mais comment ça ? Elle est assez intellectuelle. Elle est bac plus 2. Elle avait toute une vie, elle est belle et tout. » J'ai essayé de comprendre les causes et origines de ce phénomène, la traversée du désert et la traversée de la mer. Et là, quand j'ai vu ses parents, sa mère en train de pleurer, je me suis imaginé, moi,
si toi tu avais fait
si moi j'avais fait cette traversée,
ouais,
qu'est-ce qui aurait pu m'animer ? C'est vrai que les causes sont nombreuses pour tenter cette migration, mais les conséquences sont encore plus douloureuses. S'il avait vu, parce que c'est lorsqu'il est face à son destin qu'il réalise son action suicidaire.
Ouais.
Il n'avait pas encore idée de ce que cela aurait pu être de prendre la mer sous une embarcation de fortune. Il se voit comme Moïse. Il voulait conduire sa famille à la terre promise, mais finalement, il ne la verra pas. Il laisse derrière lui une mère éplorée, une femme et un enfant. Pour dire aussi à tous les jeunes africains, réfléchissons avant d'agir. L'Eldorado, c'est en nous-mêmes d'abord. Il y a un langage africain qui a un symbole très fort qui dit Sankofa. On peut le trouver dans les symboles Akan, qui veut dire retourner sur soi-même. Donc, essayons de voir à l'intérieur de nous et on verra notre véritable force. Merci. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci. Merci, Ralph. Tout à l'heure, tu as, et merci de l'avoir fait, tu as évoqué le triste bilan de jeunes, parce qu'ils sont souvent jeunes, morts dans le désert ou en mer. Il y a tous ceux dont on ne connaîtra jamais les noms, qui n'auront jamais d'office religieux, quelle que soit leur religion, qui n'auront jamais de sépulture digne de ce nom et qui ont quitté ce monde sans que les parents même ne réclament leur corps ou n'évoquent auprès des autorités la disparition de cet enfant. Et pour ces dizaines et dizaines et dizaines de milliers de morts, aujourd'hui on en parle, mais il y a tous ceux dont on n'a jamais parlé, parce que ça fait des années, ça fait plus d'une dizaine d'années que ce phénomène existe, même du temps de Kadhafi, si on parle de la Libye. Je voudrais juste que l'on observe une minute de silence pour tous ces jeunes-là, pour toutes ces âmes parties, pour tous ces jeunes pleins d'espoir qui ont quitté ce monde de la façon la plus violente, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Ralph. Merci pour ce titre et puis à bientôt.
À très bientôt.
Toi-même, tu sais. Ouais. Merci. Ouais. Allez, viens, mon frère.
Merci à vous aussi.
Je voudrais qu'on parle de ce phénomène. Y a-t-il parmi vous des jeunes qui, au sein de leur famille, ont perdu l'un des membres de cette famille ou de proches, en tout cas? Est-ce que vous-même avez été tenté par cette traversée? Qui souhaite répondre?
Moi, c'est l'étudiant Kwame Lekis Matiasen, étudiant en licence de histoire à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un ami à moi qui a essayé de traverser la Méditerranée, malheureusement, il a échoué et il est décédé. On ne savait pas, ça fait pratiquement 2 mois qu'on n'avait pas ces nouvelles. En partant, il n'a pas informé la famille. Il s'est caché, il est parti. Et c'est après qu'on a appris la nouvelle. Franchement, c'était triste. Pourquoi c'était triste pour moi? Parce que c'était quelqu'un vraiment qui avait décidé, qui avait promis de ne pas tenter l'aventure. Lui, pour lui, il voulait vraiment se donner à fond, travailler pour pouvoir avoir une bourse d'études pour aller en Europe. Lui, franchement, il était contre l'idée de passer par la Méditerranée. Et il est parti. Franchement, je suis beaucoup attristé, je suis beaucoup peiné.
Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat contre une couleur, contre un peuple, mais pour la dignité humaine. Ça, c'est très important. Merci en tout cas de ce témoignage.
J'ai une sœur qui était totalement malade, mais elle avait 2 enfants et finalement, l'enfant a décidé d'aller à l'aventure en passant bien entendu par la Libye. Effectivement, lui, il est décédé en cours de route. Et la maman étant malade, on n'a pas voulu nécessairement donner l'information à la vieille. Donc, du coup, elle avait parti sans toutefois savoir qu'effectivement son enfant est décédé.
Mais peut-être qu'elle est partie en se disant probablement que lui a réussi à traverser. Donc, mieux vaut qu'elle soit partie comme ça.
Voilà.
L'important, c'est de rester et de mettre les gouvernants face à leurs propres responsabilités. Parce que si les jeunes partent, ce n'est pas parce que le pays n'est pas joli. Si les jeunes partent, c'est parce que le pays, même s'il est beau, eh bien, a un goût amer lorsque l'on est jeune et lorsque l'on veut réussir. Et donc, c'est à cela que doivent s'atteler, en tout cas, les gouvernants. Je ne sais pas, et je voudrais vous interroger là-dessus, si vous avez vu la dernière rencontre annuelle des chefs d'État, donc de l'Union africaine, à Addis Abeba, la seule préoccupation des uns et des autres était de répondre à l'insulte de Trump sur pays de merde. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est un gag, les gars font ça juste pour nous embêter, pour nous dire, non, on plaisantait, en vérité, on va s'occuper de la jeunesse. Non, les gars ne plaisantaient pas. Il y a une déclaration, oui, nous condamnons les propos, on s'en fout qu'il ait dit pays de merde. Non mais c'est ça la réalité. Ils auraient juste dû dire que l'année 2017 a révélé des choses, que cette année 2018 doit être l'année d'une jeunesse et qu'il faut s'atteler en urgence à mettre en place des projets pour aider les jeunes à ne pas partir.
Oui, moi c'est Bienvenu Kwaku. Dans ce pays, il faut qu'on pense aux jeunes. Et c'est pourquoi les jeunes doivent prendre le pouvoir. Parce que si on ne prend pas le pouvoir, on va toujours galérer et on sera obligé, en fin de compte, de faire comme les autres qui sont allés mourir dans la Méditerranée. Voilà. Et ça, c'est pas très agréable.
Le désespoir
voilà,
le pousse désespoir. À aller chercher l'espoir ailleurs.
Bien sûr, c'est pourquoi on doit prendre le pouvoir.
Merci beaucoup.
Okay.
Bonjour Claudie.
Bonjour.
Je suis Charles-Emmanuel Kouadio, membre du club des jeunes Afriques optimistes qu'on représente.
Respect.
D'ici 2050, nous aurons 450 millions de jeunes sur le continent. Nous en avons actuellement 200 millions. Qu'est-ce qu'il faut pour que la jeunesse africaine comprenne qu'elle n'est plus l'avenir de l'Afrique, mais son présent? Il faudrait que la jeunesse africaine comprenne désormais que sur le continent, c'est à nous de prendre le pouvoir. Mais c'est à nous de prendre le pouvoir en ne se minimisant pas. C'est à nous de prendre le pouvoir en se disant « Oui, en tant qu'Africain, je peux réussir. Oui, en tant qu'Africain, j'ai du talent, j'ai de la créativité. Oui, mon continent est beau. Oui, je suis fier d'être Africain. » Il faudrait véritablement arrêter d'accuser, mais faire une introspection profonde et se dire « Oui, il y a des paradigmes à changer. Oui, nous-mêmes, en tant qu'Africains, il y a quelque chose à changer. Il y a un changement de mentalité à faire. Il y a une évolution à faire pour faire grandir et pousser haut notre continent. Vive l'Africain, vive l'Afrique. »
Merci. C'est très important ce que vous avez dit. On est quelques-uns à le dire depuis très longtemps, il faut que les mentalités changent. Il faut effectivement l'introspection, se dire bah, « nos défauts sont les suivants ». Et que peut-être ces défauts-là sont accentués aujourd'hui, mais peut-être que nos ancêtres les avaient également. Et dans cette rencontre avec l'Europe, eh bien, ça leur a été fatal.
Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Claudie, mais tout le temps quand on parle du continent, on parle du continent comme un continent misérable,
ouais.
Comme un continent gueux, comme un continent qui tend toujours la main, qui est toujours assisté. Et nous, en tant qu'optimistes, nous disons non à cela. Nous disons qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de potentialités. Nous disons qu'aujourd'hui en Afrique, il y a la génération d'Aliko Dangote. Nous disons qu'aujourd'hui en Afrique, il y a plusieurs choses qui évoluent, qui nous permettent de croire en notre continent, de croire au potentiel de la jeunesse africaine et de se dire qu'avec ce potentiel, avec cet espoir que nous nourrissons, l'Afrique peut changer.
Tu sais que ce que tu dis là, c'est l'estime de soi aussi. Hein.
Déjà en septembre, nous avons décidé d'aller dans une école et offrir des kits scolaires. Nous, on veut prendre l'initiative. Nous, on veut nous engager, sortir des beaux discours et passer à l'action.
Applaudissez-le, s'il vous plaît. Que représente le panafricanisme pour vous? Qu'est-ce que c'est? Quelle est votre définition du panafricanisme?
Moi, c'est Luc Roland Kouassi, journaliste de formation, puisque j'ai une licence professionnelle en journalisme, et aussi poète slameur. Ce que j'entends par panafricanisme, ce sont des Africains qui se mettent ensemble, qui ne pensent pas à leur pays d'origine ou leur région spécifique en Afrique. J'ai beaucoup aimé le mouvement de la négritude, où les étudiants noirs, pas forcément africains, mais noirs, se retrouvaient à Paris. Ils pensaient déjà à la cause des noirs en général. Et après, on a vu que ces personnes-là sont devenues soit des présidents dans leur pays d'origine et tout, et ils ont gardé des liens forts. Donc le panafricanisme, pour moi, c'est se relier, pas discriminer les Blancs, mais vraiment montrer une valeur aux Noirs sur le continent et même à l'extérieur.
Il ne faut jamais oublier que le panafricanisme, l'esprit du panafricanisme, ce mouvement-là est né à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec les Afro-Américains. Le professeur Dubois, étant l'un des premiers et des initiateurs du panafricanisme. Je pense également à Padmore de Trinidad et des gens comme ça. Parce que beaucoup aujourd'hui ne savent pas, pensent que le panafricanisme, c'est les années 50, les années 60 avec les pères fondateurs. Non, le panafricanisme, ce sont les afros de la diaspora qui l'ont théorisé, si je puis dire. Et puis il est devenu réalité, évidemment, grâce au continent.
Bonsoir Claudier, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Le panafricain, c'est celui qui revendique une identité. À un certain moment donné, il a fallu que des gens se mettent ensemble et qu'ils reviennent sur des valeurs, qu'ils reviennent sur leur identité, sur leur moi, pour pouvoir véhiculer un message. Ce message-là, certainement, c'était un message d'émancipation, c'était un message d'autodétermination, c'était un message d'indépendance, véritablement, sur certaines choses. Indépendance culturelle, indépendance économique, on pourra citer plein de choses.
Marcus Garvey
et j'en passe. Mm-hmm. De la région d'où tu viens, dans les îles, il y a des gens qui se touchent à l'ouverture. Tous ceux-là, c'est des gens qui ont prôné ce qu'on appelle le panafricanisme. Mais aujourd'hui, les gens ont utilisé ce terme-là à d'autres fins et on pense que le panafricanisme, c'est l'exclusion. Non, il ne faut pas avoir honte d'être panafricaniste parce que les Européens, ils ont cette nature-là en eux de se mettre ensemble, d'où la création de l'Union européenne. Donc, être panafricain, ce n'est pas exclure ou alors refuser de s'ouvrir à l'autre, mais c'est plutôt de se retrouver dans son identité.
Merci beaucoup. Applaudissements.
Je t'en prie.
C'est très important de rappeler que le panafricanisme, c'est quelque chose qui doit normalement nous permettre de bâtir, de construire, d'unir, et pas de diviser, de vilipender, de diffamer ou d'être dans la culture de la haine. Il faudrait qu'on termine cet entretien. Je voudrais vous présenter quelqu'un qui est un membre de la famille de Couleur Tropicale et un membre de la Génération Consciente. C'est un des présidents de la Génération Consciente en Afrique. C'est un vrai panafricain parce que lui, on ne saura jamais vraiment totalement s'il est ivoirien, parce qu'il a vécu ici si longtemps, s'il est guinéen, parce qu'il a vécu là-bas également très longtemps, et ou s'il est tout simplement malien, parce qu'il vit au Mali, et cela depuis de nombreuses années. C'est Maury Touré, que vous entendez régulièrement dans Couleur Tropicale. Maury Touré. Non, mais c'est vrai. Et c'est avec lui qu'on va conclure cette émission-là. Avec cette question, vous y avez répondu sans y avoir répondu, parce qu'on ne peut pas finalement répondre aujourd'hui, maintenant, à cette question. Mais on peut tous se poser la question: est-ce que la jeunesse peut prendre le pouvoir en Afrique? Vous avez encore beaucoup de temps pour y répondre, mais il faut faire vite pour y réfléchir.
Claudie, merci. Merci à tous. Je vais répondre à ta question, Claudie. On peut prendre le pouvoir. On a pris le pouvoir il y a 2 ans du côté de Burkina Faso. Et ce jour-là, le vieillard qui était là est parti. Dardar. Il a laissé les jeunes à la rue. Ils étaient les présidents du Burkina Faso ce jour-là. On peut prendre le pouvoir.
Balais citoyens, hommage, respect.
Voilà, on les respecte. Filimbi, ouais. Yanamar, on peut prendre le pouvoir, comme il a dit l'autre, si on est unis. L'Afrique est devenue aujourd'hui le dépotoir du monde occidental. Excusez-moi, même le coton que les jeunes femmes prennent pour arrêter un peu les périodes menstruées est fabriqué en Occident. Même les cotons-tiges qu'on met dans nos oreilles avec le petit bout de coton est exporté. C'est pas possible.
Eh oui.
Il y a des acquis qu'on a aujourd'hui. On a les réseaux sociaux, on a l'esprit ouvert sur le monde. On peut changer les choses. Soyons unis. Et sachons surtout d'où nous venons, comme Claudie l'a dit, par rapport à la culture. Je suis hyper content, je dis, quand je vois les jeunes Africains, je travaille dans la culture. Sidiki Diabaté n'a pas besoin d'aller en France pour être une star. Il met 25 000 jeunes à Bamako. Il met 25 000 jeunes à Niamey. Les choses sont en train de changer.
À Brazzaville aussi.
À Brazzaville, les choses changent. L'Afrique est en train de changer. Prenons le train du changement, parce que le changement, le moteur, l'essence, toute la locomotive, c'est nous. Merci, Claudie.
Merci beaucoup à toi. C'était le mot de la fin. Merci à toutes et à tous. Et qui que vous soyez ou que vous soyez, restez fiers de ce que vous êtes. Merci beaucoup.
Merci, Claudie. Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.